un des conseils que j'ai retenu de toutes les rencontres faites avec les expatpreneurs qui ont témoigné sur le podcast, savoir s'entourer. C'est pourquoi je vous invite à jeter un œil à nos packs d'accompagnement pour vos business nomades. Que vous soyez en idéation, au tout début de lancement de votre projet ou à un stade bien plus avancé, nos experts sont là pour vous aider à développer votre business d'expatpreneur et à le faire décoller. Retrouvez toutes les informations sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et maintenant, place à notre nouvelle invitée pour ce nouvel épisode.
Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre nouvel épisode de The Musette, le podcast consacré aux femmes expatpreneurs. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir et de vous présenter notre nouvelle musette, Alice. Hello Alice et welcome.
Salut Aline, welcome tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir.
Ben, je suis très contente aussi de se recevoir. Alors Alice, comme tu le sais sûrement, j'ai pour habitude de commencer les épisodes du podcast en demandant la petite carte d'identité de nos invités. Donc est-ce que tu peux donner ton nom, ton prénom, ton âge, si tu es d'accord, où tu vis et avec qui?
Alors avec plaisir, moi c'est Alice Planchuneau d'Algitch, j'ai 34 ans, j'habite à Düsseldorf depuis février dernier. Avec mon mari Guven et notre fille Thalie qui a 3 ans.
Oh, c'est trop mignon comme prénom ça, Thalie, c'est original, j'aime bien.
C'est un prénom grec qui vient de la mythologie grecque pour ceux qui connaissent un peu.
Ouais, ça veut dire quoi?
Eh ben, Thalie, c'est la muse de la comédie, du théâtre, de la floraison. Et comme elle est née en mai et que c'est une petite fille très joyeuse et voilà, très dynamique, eh ben, ça lui va très bien.
Alors, donc tu disais tu viens d'Allemagne, mais je sais que c'est pas ta première expatriation, l'Allemagne. Je sais que tu as donc vécu en Croatie avant. C'est pas une destination commune, la Croatie, pour des expats. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es arrivée là-bas et ton expérience?
Eh ben oui, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des Balkans dans les épisodes d'expats, que j'en ai écouté pas mal. Eh bien, mon mari travaille dans un grand groupe de cosmétiques, pour pas les nommer, et il a eu une opportunité en Croatie, c'était en septembre 2019. Donc, ravie, on habitait à Paris, on a dit « allez, c'est parti », et on a découvert, un petit peu les Balkans avant que la pandémie arrive. Je pense que tout le monde a eu ce super souvenir du Covid. Et c'était parti. Alors lui, c'était sa deuxième expatriation, parce qu'il était déjà expat à Paris. Et moi, c'était la première expatriation. Et je suis partie un peu la fleur au fusil. C'est bon. Les cartons sont dans le conteneur. On prend nos valises et on y va. C'est pas du tout prête, en fait. C'était un peu genre, on part découvrir un autre pays. Bon, après, on restait en Europe, donc je croyais que ça allait être assez facile, entre guillemets, mais non, parce que chaque pays a sa culture, chaque pays est différent, et c'est pas du tout des vacances, surtout que moi, j'étais déjà enceinte, et quand même, je me suis pris une grosse claque, genre, ah ouais, je comprends maintenant, l'expatriation, c'est pas des vacances.
Tu n'es pas dans le cliché des en vacances tout le temps, surtout que bon, la Croatie, c'est quand même joli, il y a du soleil, il y a des plages, donc voilà.
Ouais, mais alors à Zagreb, dans les terres, bon, on est quand même pas très loin de la côte, mais à Zagreb, ça reste une ville, une petite capitale très tranquille, ça c'est sûr, mais on n'est pas sous les cocotiers, quoi. Donc ça a été super enrichissant de connaître l'histoire des Balkans. Parce que les Balkans ont connu la guerre qui s'est finie il y a pas si longtemps que ça, en 96. C'est très très riche en histoire. On le voit encore sur les bâtiments, que ça soit à Zagreb, à Sarajevo, en Bosnie. Il y a aussi tout le côté un peu touchy entre les Croates et les Serbes. Et donc ça a été chouette de rencontrer des Croates, parce que nous on habitait avec nos propriétaires dans le même immeuble. Donc pour le coup on était hyper bien intégrés. Et on a passé des super moments avec eux, même si on a rencontré aussi la communauté française. thèse à Zagreb.
C'est ce que j'allais te demander, c'est que déjà j'imagine que bon, ok, arrivé en 2019, mais t'as le Covid juste après, ça doit pas être évident. Et qu'en plus de ça, bon, t'as une communauté française, mais elle doit pas être non plus énorme.
C'est vrai qu'elle est pas énorme, mais bon, après, il suffit de quelques personnes, voilà, pour se faire des connaissances et ses premiers, on va dire, potes, amis sur place. Mais moi, c'est vrai qu'en arrivant, en fait, Google Traduction, c'était mon meilleur ami, quoi. Quand t'arrives dans un nouveau pays, tu connais pas la langue. Bon, bah, pour faire les cours, ça passe. Ça prend 3 fois plus de temps que si tu vas dans ton carrefour à côté de chez toi. Moi, je viens de Nantes, donc tu vois, genre, c'est facile, tu connais tout. Et ça, j'avais pas du tout intégré ça, en fait. L'orthographe, la prononciation. Bon, en plus, enceinte, bon, j'étais super fatiguée, mais ça m'a rajouté une fatigue assez intense. Et si tu veux, on va parler de la santé à l'étranger. Moi, je suis arrivée avec mes idées toutes préconçues, bah, de la maternité française, du suivi de grossesse en France, qui est complètement différent d'un pays à un autre. Hein. Que ce soit là en Croatie ou maintenant en Allemagne, ça a été, on va dire, assez challengeant dans le sens où il fallait trouver un gynécologue, est-ce que ça matche avec nous ou pas comprendre tout le suivi de grossesse qui est beaucoup plus lourd qu'en France, c'est une écho par mois. Après le dernier mois, c'est une écho plus monito une fois par semaine. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que c'est cool, voilà, tu fais ton écho par mois, tu vois ton bébé qui va bien et c'était chouette. Mais il y a un système aussi de privé et public qui font qu'on était un peu méfiants parfois avec mon mari, genre ok, est-ce qu'ils vont pas chercher la petite bête pour nous faire payer parce qu'ils savent que les espaces on a quand même des bonnes mutuelles. Ils peuvent en jouer aussi dans les Balkans. On était un petit peu méfiants sur ça, mais on a adoré notre expérience en Croatie.
Et alors justement, maintenant que tu es arrivée en Allemagne, qu'est-ce que tu aimes là en Allemagne que tu n'as pas en Croatie ou inversement, qu'est-ce que tu préfères en Croatie que tu n'as pas en Allemagne? Comment tu fais maintenant pour t'intégrer à la communauté expat en Allemagne et à la communauté allemande aussi?
Alors, nous, on est arrivés à Düsseldorf en février dernier. Quand mon mari m'a dit, on va rester en Europe. Où ça, Düsseldorf? Pour être honnête avec toi et avec vous, je savais pas exactement où c'était sur la carte. Moi, l'Allemagne, ça m'a jamais fait rêver. Enfin, genre, ok, pourquoi pas. Tout de suite, j'ai appelé une copine qui a habité longtemps à Düsseldorf et qui m'a dit, non, vas-y, fonce, c'est génial, tu vas voir, à part le temps, tout est canon là-bas. Et en vrai, moi, ce qui m'aide quand même, c'est les groupes Facebook où il y a toujours des petits tips sur tiens, ça, tu peux trouver ça là, tu peux trouver ça là. Si tu as besoin d'un électricien, d'un plombier, il y a toujours quelqu'un qui sait parce qu'il y a toujours des gens qui restent sur les groupes, même si ça fait très longtemps qu'ils sont sur place. Et mine de rien, moi, j'ai trouvé une Française qui est là depuis très longtemps, presque 10 ans. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup pour vite démarrer et se mettre dans le bain du nouveau pays, comprendre comment les Allemands fonctionnent, pourquoi parfois tu te prends des stops, parce que les Allemands, c'est pas les personnes les plus souriantes. Et parler avec quelqu'un qui est là depuis longtemps, et ben elle va un peu te remettre, tu vois, les bases, ouais, mais les Allemands, voilà, c'est parce qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça, donc t'inquiète pas. Et pas rester, tu vois, un peu isolé, en mode « Oh, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça ». Je trouve que ça, c'est bien de tout de suite un peu rencontrer la communauté française et de se faire une copine ou un pote qui est là depuis super longtemps. Comme ça, il va te donner tout de suite des tips. Après, tu les prends pas, mais ça te permet d'être tout de suite un peu plus dans le bain. Mais bon, ça, c'est personnel après. Et moi, ce que j'adore retrouver en Allemagne, c'est la nourriture parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Il y a plein de produits que je trouvais plus en Croatie. Donc voilà, il y a beaucoup de parcs, c'est très vers l'Allemagne. Pour les familles, c'est vraiment top. Et puis, l'éducation allemande, c'est l'enfant, il fait un peu ce qu'il veut, je trouve.
C'est un peu comme aux Pays-Bas, ça. C'est un peu l'enfant roi.
on va dire l'enfant roi, dans le sens où, moi, je vois dans les parcs, par exemple, les Allemands, ils arrivent, t'as des familles qui arrivent avec des énormes poussettes, ou même ça s'appelle les Kinderwagons, mais c'est des énormes chariots, et il y a plein de jouets dedans, il y a plein de goûters et tout, et il reste tout l'après-midi, tout le week-end, et l'enfant joue, se salit à fond, il a du sable de la tête aux pieds, c'est pas grave. Alors, j'ai l'impression qu'en France, j'ai pas fait 36 000 parcs en France, mais c'est plus, bon, on y va tranquille, tu joues un petit peu, tu te salis pas trop.
Ils sont assez permissifs comme ils sont aux Pays-Bas. Enfin, moi, j'avais eu ce sentiment-là aussi quand j'étais là-bas. Donc,
Ben moi, je ne connaissais pas. J'ai appris ça en Croatie et en Allemagne, ils le font aussi. Mais je ne connaissais pas les pantalons de pluie, voire les combinaisons de pluie et d'hiver où tu t'enfiles ça de la tête aux pieds à ton enfant. Et l'enfant, il peut se rouler dans la boue. Bon, voilà, c'est pas grave parce qu'il a sa protection. Et ça, j'étais, ah ouais, ok. Et du coup, je me suis adaptée à... C'est dans la culture, en fait, maintenant.
Alice, on va parler de ton projet. Donc, tu disais que tu as une petite fille. Et je sais que pour toi, bon, la grossesse, ça a été plus ou moins OK. Mais c'est surtout voilà, l'accouchement et la suite, ça n'a pas été vraiment ce que tu rêvais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que je sais que ça va t'amener au projet. Donc, d'abord, explique-nous un petit peu cette fin de grossesse.
Si je reviens vite fait sur l'accouchement, à cause du Covid et tout ce qui s'est passé, voilà, mon mari n'était pas présent. Ça reste encore une blessure pour notre couple.
Il était en mission quelque part, c'est ça?
Non, à cause du Covid, les papas n'avaient pas le droit de venir.
Bien sûr.
C'était très, très strict, même si, voilà, on essayait de leur expliquer que nous, sur place, on n'avait ni famille, ni énormément d'amis, et que ça allait être compliqué pour la suite, quand même, de s'occuper d'un bébé, genre, tout seul. Mais bon, voilà, les règles étaient là, et... Je le dis, hein, même si j'ai fait les séances de psy et tout, ça reste encore une blessure pour moi et lui. Après, l'accouchement, j'ai une césarienne alors que je voulais pas du tout avoir une césarienne. J'étais un peu la fille à l'époque qui était là. Ah non, mais une césarienne, pas trop un accouchement. Quelle erreur de dire ça, enfin, vraiment n'importe quoi. Donc, j'ai très, très, très mal vécu. Bon, après, voilà, on était dans notre petite bulle avec notre famille. C'était un bébé. Souriant, toute mignonne et tout. Mais moi, j'ai eu une descente en enfer, mais vraiment tranquillement. J'ai fait une dépression postpartum, on va dire, assez grave. Ça allait assez loin. Je suis souvent en mode, non, mais moi, je peux y arriver toute seule. Non, mais ça va, je gère. Et même avant de vouloir avoir un enfant, je regardais les émissions qu'on connaît toutes et tous, la maison des maternelles, voilà, ce genre de choses. Ça m'a toujours passionnée. Et, ah, ok, bon, ça, je sais. Ah, oui, ça, je sais. Je me suis informée là-dessus. Ah, l'allaitement, ça aussi, j'ai lu ça. Mais je ne m'étais pas préparée qu'en fait, il faut quand même un entourage qui puisse nous épauler et qui soit là, présent, là, tout de suite. Bon, avec le Covid, c'est plus compliqué. Et la dépression, c'est pas quelque chose qui t'arrive du jour au lendemain. En fait, c'est comme, tu vois, les petites fuites d'eau, tu vois, les infiltrations, ça arrive petit à petit. Après, oui, à un moment, ça va lâcher. Et un jour, j'ai lâché complètement. Mon mari, il a vu que j'étais vraiment très, très mal. On est retourné à Nantes. Ma fille avait 8-9 mois. C'est très flou hein, dans ma tête. 10 mois, je ne sais plus. Et je me suis fait hospitaliser à Nantes 15 jours pour me soigner de cette maladie.
Ouais, et reprendre pied.
Et reprendre pied, ouais. Et j'entendais dans les podcasts de maternité ou sur les réseaux... cette solitude parentale, maternelle, que c'est dur d'être un enfant, d'être avec un bébé toute la journée. Je l'ai vécu. Moi, ça a été dur aussi de ne pas avoir de projet à côté. Alors, on me disait, mais c'est Ali, ton projet. Regarde, t'as fait le plus beau des projets. Ouais, mais en fait, moi, être que maman, c'est pas assez, en fait. C'est pas assez, c'est... Avant d'avoir Thalie, j'étais une femme et je m'étais complètement oubliée. Mais complètement. Quand je regarde les photos de l'époque, je fais waouh, quand même, comment t'as pu? Donc voilà. Et je savais que je voulais toujours entreprendre, tu vois. Genre ça, c'est un truc. Mais depuis toute petite, je me disais, ah, j'ai pas entreprise. À Paris, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai toujours eu plein d'idées, sauf que pour se lancer, c'est pas évident. Et après mon hospitalisation, une fois que j'allais mieux, et Thalie allait à la crèche, parce qu'il n'y a pas de crèche avant les 1 an de ton enfant, en Croatie, en Allemagne, c'est pareil, de toute façon. Et je me suis dit, attends, c'est pas possible qu'il y a autant de mamans qui se sentent seules, que je les vois, là, se balader, là, avec leurs poussettes et que personne ne se parle. Il y a plein d'applications de rencontres qui existent pour trouver l'amour.
Ouais, donc justement, c'est ce qui t'a amené à créer ton site, ton app, Milky Date. Donc déjà, pourquoi ce nom aussi? Et donc justement, explique-nous qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça.
Tout ce que j'ai traversé, c'est l'ADN de Milky Date. En vrai, parfois, j'essaye de me détacher du projet, mais en fait, non. Enfin, c'est moi, c'est mon histoire. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y avait une femme entrepreneuse qui fait comment tu fais pour détacher ton projet sur les réseaux. Bah, c'est très difficile parce que ma descente en enfer, la dépression du postpartum, l'isolement que j'ai connu, bah, c'est grâce à ça que j'ai créé l'application Milky Date. Et Milky Date, c'est vraiment bah, le nom, le milk, que ça soit dans le biberon, ou si une maman allait son bébé, et la date, la rencontre, le côté, bah viens, on va prendre un café, ah oui, je vois que t'habites pas très loin, viens, on va au parc, ah tiens, toi aussi, t'es une future maman, c'est quand ton terme, ah bah moi, ça sera dans 2 mois aussi, et ainsi de suite. Bah. Parce que mine de rien, même si on a des potes, mais quand on est vraiment dans ce moment assez spécial de notre vie, que ça soit pendant la grossesse et le postpartum, on n'a pas forcément les amis qui vivent exactement la même chose que nous. Et en fait, c'est là qu'on a besoin d'être entouré, de parler. Moi, je rigolais à chaque fois quand je voyais des mamans qui parlaient toujours de leurs enfants, mais en fait, une fois que t'as un enfant, oui, t'as envie d'échanger, et si tes potes ils sont pas dans le même mood, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Alors que quand tu viens d'accoucher, t'as envie de parler de ton accouchement, quand c'est passé, ah ouais, et toi, et ça, et ton bébé, machin, et l'allaitement, comment ça se passe, et en fait, les biberons, ça va, t'as trouvé la bonne marque et tout, enfin, et t'as trop envie de parler ça tout le temps, bah après, ça passe. Mais si t'as pas la pote à côté qui vit un peu la même chose que toi, je trouve que c'est compliqué.
Donc comment elle fonctionne, ton app, au final, précisément?
Alors, l'app, on crée un profil, c'est assez ludique, on met le nom, on met son prénom, on met si on est en attente d'un enfant, si on est déjà parent. Et après, il y a les teams, la team allaitement, la team biberon, la team cododo, Montessori, ou il y a aussi la team je fais comme je peux, les gars.
C'est bien aussi ça.
T'as aussi un peu le lifestyle, comment tu vis dans ta vie, un peu aussi le caractère de la personne. C'est des petites bulles à cocher. Il y a un petit encart aussi pour se présenter. Et après, il y a la géolocalisation. Donc, tu vas voir sur chaque profil utilisateur à quelle distance se trouve cette maman ou ce papa. Et donc, tu as la messagerie pour entrer en contact avec la personne et puis l'équipe.
Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très, très smart comme idée. L'idée de faire une app, est-ce que ça t'est venu rapidement et est-ce que tu t'es fait accompagner?
Ça m'est venu assez rapidement parce qu'au début, je pensais vraiment à une application, une plateforme de rencontre, site internet. Mais en vrai, on est tous sur nos portables. Les applications de rencontre, on va dire plus amoureux, ça marche très bien. Donc, je me suis dit, application de rencontre pour les parents, ça va très bien marcher aussi. Donc, je me suis pas posé 36 000 questions, je me suis lancée dans l'application. J'ai une développeuse avec moi, qui s'appelle Vanessa, avec qui on travaille depuis un peu plus d'un an maintenant. On a fait les maquettes, on a réfléchi à comment, les géolocalisations, la messagerie, une collaboration marche très bien. Donc, j'ai eu de la chance.
Tu avais déjà l'idée à peu près de ce que tu voulais. Et grâce au brainstorm avec elle, voilà, tu as pu affiner. Mais je veux dire, tu avais dans ta tête déjà un peu la vision de ton app.
Elle m'a proposé des maquettes. Et après, moi, par rapport à ce que je connaissais des applications de rencontre, je validais ou pas, mais ça a été assez vite. Parce qu'il y a, voilà, tu vois tous les profils, un peu comme on va dire Tinder, pour ceux qui connaissent. Et sur l'application aussi, tous les jours, enfin, on va dire, les semaines plutôt, tu as des bons plans qui arrivent, un peu comme les stories sur Insta, sur Facebook, et les gens, voilà, ils peuvent regarder les bons plans, que ce soit pour des bons plans bébés, des bons plans pour les parents. C'est au point, mais je pense que je pourrais l'améliorer.
On peut toujours faire plus.
On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien lancer le projet.
Et alors, je peux te demander, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer aussi dans la création d'une app, quelle qu'elle soit, c'est quoi à peu près le temps qu'il t'a fallu, toi, pour la mettre en place et aussi une fourchette pour avoir un budget?
Alors, après, dans les apps, soit tu vas créer une app en no-code, ce qui fait pas mal en ce moment, soit en code. Moi, en sachant que c'est une application qui va grossir avec beaucoup d'utilisateurs. Et d'après ce que j'ai compris, fallait mieux que je me lance en code. Après, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent lancer, j'en sais rien, une application de coaching ou quelque chose comme ça, le no-code, je pense que ça peut suffire. Le no-code, apparemment, on peut le faire aussi chez soi. Bon, se faire accompagner, c'est toujours bien. Quand tu ne restes pas tout seul dans ton projet à galérer. Donc moi, je suis partie sur du code parce que j'ai interrogé beaucoup de développeurs. Il y a tous les prix. Moi, j'avais un budget de 10 000 euros. Finalement, j'ai dépensé un peu plus. Ça a été un prix assez convenable, mais en vrai, il y a tous les prix. J'ai rencontré Vanessa. Il ne faut pas hésiter à bien expliquer le projet. Et puis, il y a plein de fonctionnalités que moi, j'ai pas pensé, qu'elle disait, mais non, mais si tu ne penses pas à ça, ça va pas faire et tout. Parce que bon, elle a plus d'expérience que moi, c'est sûr. Mais il faut comparer à fond. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps alors qu'on a envie que ça aille vite, parce qu'on est à fond. On fait non, mais ça va être trop bien. Quand ça va sortir, mais en vrai, ça prend beaucoup de temps. Et nous, ça a mis un an avant que ça sorte l'application. Je sais que les applications qui sortent en beaucoup moins de temps, genre, pas 3 mois, 6 mois, ça peut être sorti. Mais on a aussi une vie perso à côté. Elle est maman aussi.
Qu'est-ce que tu as voulu véhiculer comme valeur? Parce qu'avec une app, c'est difficile, mais avec Milkidet, c'est quoi là, les valeurs que tu veux transmettre aux jeunes parents, jeunes mamans?
Une des valeurs de Milkidet, c'est vraiment l'entraide. C'est pas que de la rencontre, ok, on va aller se rencontrer, on va au parc, mais j'espère que pendant les rencontres, voilà, les parents vont s'entraider, vont pouvoir beaucoup échanger. Et quand je dis entraide, c'est pas tiens, je vais faire avec chez toi, mais c'est toi de l'écoute, se sentir épaulé et un peu même beaucoup casser cet isolement parental. J'entends beaucoup de mamans qui sont seules chez elles avec leur bébé. T'as beau faire des tours de ton quartier avec ta poussette, ça suffit pas, t'as besoin vraiment de déverser tout ce que tu viens de vivre. Après, moi, j'ai pas envie non plus de faire un discours genre oui, le moment de l'accouchement et du postpartum, c'est plombant et on va tous faire une dépression du postpartum, soit un baby blues. Il y a des postpartums qui se passent très 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 bien, mais c'est quand même une période où on est plus vulnérable et on a besoin d'être épaulé. Donc l'entraide, de l'écoute seule. Parce que moi, mon cerveau, je m'en souviens quand ma fille était bébé, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il diminuait.
Pour toi, c'est quoi les avantages de la création de cette communauté de parents expats? Parce que tu touches que Düsseldorf? Non, j'imagine que tu essaies de toucher un petit peu ailleurs aussi. Et est-ce que tu as des histoires un petit peu inspirantes aussi qui te sont remontées?
Là, pour l'instant, l'application, elle est utilisable et téléchargeable que en France. J'ai eu la chance de participer à un événement à Düsseldorf, où j'ai rencontré la French Tech, assez connue. Le gros challenge pour moi, je parle pas allemand, c'est de lancer l'application en Allemagne. Donc, on va commencer par Düsseldorf. Et petit à petit, en Europe, dans le monde entier. Parce que, par exemple, pour nous, les expats, moi, je bouge, par exemple, tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans, je dois me refaire des amis. Voilà. Donc, petit à petit, on en a un peu partout. Mais c'est trop important d'avoir son socle et, comme je dis, la Dream Team, que t'as besoin d'appeler une fois que t'es sur place et que c'est bon, le socle de l'appartement est bien fixé, les enfants sont à la crèche, à l'école, t'as besoin de tes potes. Et ça, c'est pas évident d'en faire. Donc, même si t'es pas en plein postpartum, pour les expats, Milkidet, c'est vraiment une application, je pense, qui va cartonner. Mais bon, déjà, c'est déjà beaucoup de boulot de la lancer en France. En Allemagne, pour moi, ça va être un gros challenge de la lancer en Allemagne.
Si tu veux la lancer pour quand, là?
2024. Pour moi, c'est demain, donc du coup.
Demain.
Voilà.
OK.
Donc, après, l'application, elle est en français et en anglais, déjà. Parce que j'ai aussi pensé aux expats anglophones qui arrivent à Paris ou dans d'autres villes. Pour eux, c'est la même chose, hein. Puis la culture française, les pauvres, bon courage.
C'est bien, c'est smart d'avoir pensé à eux.
Donc il y a des mamans qui sont sur l'application qui habitent dans les pays du Maghreb. Elles ont pu la télécharger parce qu'elles ont encore leur carte SIM française. Mais bon, si tu changes de carte SIM, je sais que ça sera bloqué. Et ça, je dois encore apprendre à faire ce challenge.
T'as eu des histoires inspirantes de, justement, de ces rencontres? T'as eu des retours?
Eh ben, j'ai eu deux mamans qui se sont rencontrées récemment. C'était au mois de juin. Il y a une maman sur Instagram qui m'a envoyé un message début juillet. Et là, je me suis dit, OK. Il y a, tu vois, comme une petite graine qui commence à se planter et petit à petit, bon, bah, j'espère que, ouais, bon, si on m'envoie pas de message, c'est pas grave, mais j'espère que ça va continuer. Donc, voilà. Après, moi, je souhaite vraiment plein de belles rencontres, tu vois, des beaux moments de rigolade avec les enfants, les parents, et c'est tout, en fait, c'est tout. Et en même temps, c'est juste, essentiel, le lien social, c'est la base de la survie.
Ouais, c'est ça. Moi, je suppose que tu as envie, donc, comme tu disais, que tu veux que Mickey Dette traverse les frontières. Est-ce que tu as une stratégie que tu mets en place? Est-ce que tu as une vision pour un peu élargir tout ton impact?
Moi, j'ai été contactée par deux entreprises qui ont un gros carnet d'adresses d'investisseurs parce que qui dit entrepreneuriat dit argent. Et comme je disais, j'ai financé moi-même l'application. Et j'ai pas envie de dépasser mon budget pour aller plus loin. Et là, dans les 3 ans à venir, j'ai envie que l'application, elle soit vraiment dans l'Europe entière. Et ben, il faut que je fasse une levée de fonds. On m'a proposé une assez belle somme pour une levée. Enfin, on m'a dit, OK, tu peux faire une levée de fonds de temps. Et ben, pourquoi pas. Donc, là, j'ai appris ça là. Croisons les doigts. Enfin, moi, vraiment, les levées de fonds et tout, j'ai écouté des histoires de levées de fonds, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. L'entrepreneuriat, c'est vraiment tous les jours, on apprend toutes les semaines. L'autre fois, il y a une entrepreneuse qui me disait, en fait, Alice, je te prends pas la tête parce que toutes les startups, les entrepreneurs, on est un peu toutes et tous un peu à l'aveugle. C'est un peu la bidouille partout. Et en fait, ça m'a fait vachement du bien ce qu'elle m'a dit, en disant c'est un peu de la bidouille partout, en mode OK, bah tranquille, en fait. Antel qui va dire ça, elle va dire ça, lui va dire ça, petit à petit, tu vas réussir à monter ton projet et on va y aller tranquille. Et il faut surtout, dire OK, quand il y a quelqu'un qui te tend la main, qui veut te donner de la visibilité, comme toi par exemple, avec plaisir. Ce week-end, il y a une maman qui m'a dit « Ah, si t'as des flyers, je les dépose à la crèche de mon fils. » Mais bien sûr, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, il y en a qui font « Quoi, des flyers ?» Mais c'est un peu has-been comme truc pour une application. En fait, pourquoi pas enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis bidouille. Parce que j'ai imprimé des flyers, je les envoie à qui veut et pourquoi pas. Et pour l'instant, oui, c'est un peu de la bidouille. Quoi. J'ai pas de... Comme
ouais, mais bon, enfin, t'as raison, de toute façon, faut tenter, t'as rien à perdre. Hein. Enfin, moi, c'est un peu mon mantra, j'ai rien à perdre. Donc,
c'est ça. Enfin, après, je me suis fait accompagner par un incubateur, donc j'ai pas eu toutes les ficelles, tu vois, genre, parce qu'on peut pas tout apprendre en 4 mois, mais c'était quand même super enrichissant d'avoir les bases et de parler avec d'autres femmes. C'est que pour les femmes entrepreneurs, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on n'a pas beaucoup qui continuent après 1 an, 2 ans. Il y en a beaucoup qui abandonnent et je comprends très, très bien. Donc là, l'application, je l'ai lancée fin avril. Bon, je suis toujours là et j'espère que dans 1 an, je serai toujours là. Après, l'entrepreneuriat, comment te dire, ceux qui veulent se lancer, c'est tous les jours, les gars. Mais c'est tous les jours. C'est pas genre, OK, ce sera mon projet. Tu vas y aller tranquille, si tu as envie d'y aller tranquille, il n'y a pas de souci, mais c'est du H24. Moi, l'année dernière, j'ai fait une pause sur les réseaux, mais en vrai, j'étais toujours en train de penser à plein de choses. Cette année, j'ai pas fait de pause pendant l'été sur les réseaux, parce que voilà, je me sentais apte à être sur les réseaux tout le temps, mais oui, c'est du H24. Et j'ai même une amie qui m'a demandé, tu vas pas en avoir marre de parler de grossesse postpartum pendant des années, et c'était pas si bête comme question, parce qu'une fois que tu te lances dans un projet, quand on dit tu te vois dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu te vois où, et ben faut que tu le quittes ton projet, mais à fond, parce que moi, mes textes, ça parle de grossesse sur mon compte un stage, j'essaie toujours de trouver des sujets du postpartum, grossesse, bébé, ah oui, ça va aider les gens. Ouais, mais toi, est-ce que ça va t'aider de vouloir parler du projet tout le temps?
Et ce que je retiens, c'est que si j'allais te demander quel était ton conseil, est-ce que tu dirais justement de kiffer son projet? Ça serait ça ton conseil?
Ouais, ah oui, faut vraiment kiffer. Et une fois que tu te lances et que tu te lances dans ton projet, si tu le kiffes pas, c'est dommage parce qu'au bout d'un moment, tu vas dire, tu vas un peu baisser les bras, genre bon, là, ça me saoule. Je peux comprendre, hein.
Ouais, mais comme tu dis, c'est H24, donc... Alice, t'as aussi été avant salariée, hein, avant tout ça. Donc maintenant, tu es expatpreneur. Et donc l'expatriation, t'as poussé, l'expatriation et puis ta grossesse à l'étranger, etc. Donc t'ont poussé à te lancer. Est-ce que tu regrettes ou tu te félicites de l'avoir fait? Et est-ce que tu encourages les autres ou pas à faire de même?
Bah, l'expatriation, bah oui, allez-y. Enfin, si vous avez l'opportunité de vous expatrier, si c'est quelque chose qui trotte dans vos têtes depuis des années, allez-y, mais préparez-vous, faites pas comme moi quand je suis arrivée en Croatie. Juste, par exemple, je sais pas, mais il y a plein d'applications pour apprendre quelques bases, quelques mots, ça peut toujours servir. Après, l'entrepreneuriat, moi je regrette pas parce que c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, mais c'est pas genre tous les jours facile dans le sens où je me retrouve dans une position où, bah oui, je suis chez moi. Moi, je parle des mamans qui sont toutes seules avec leur bébé, mais là, moi, maintenant, je suis toute seule avec mon projet. Je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un qui va en coworking de temps en temps pour changer d'air. Après, l'entrepreneuriat, il faut tester, mais bon, je sais pas si c'est fait pour tout le monde. Bon, c'est un gros challenge. C'est des remises en question de fou. Plein d'idées à la minute et le lendemain, je suis là genre non, mais c'est de la merde que je fais, donc on recommence et ainsi de suite.
C'est vrai, il faut savoir prioriser et canaliser ses idées, je suis d'accord. De ton expérience d'expatpreneur, qu'est-ce que tu en retires comme enseignement sur toi?
Je le savais un peu déjà, mais je sais encore mieux que je suis quelqu'un qui sait vachement bien rebondir. Je peux être vraiment au creux de la vague, mais je vais rebondir assez rapidement. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais on va dire grâce à Nikidate, je me rends compte que tu vois le syndrome de l'imposteur qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, bon bah je l'ai, et il y a des jours où il me revient en pleine face et ça c'est pas facile. J'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient mais genre à 1000%, il va jamais dire non bon ouais c'est la marre, hein. Arrête, c'est bon, tranquille, ok, t'as essayé et tout. Non, il va toujours me dire, non mais attends, t'as quand même une application sur Apple Store, j'en connais pas d'autres, t'es la seule. Donc là, tu défonces tout, allez, vas-y, on continue. Ok, c'est vrai que quand même, j'ai quand même une application dans les stores, on y va. Parce que je l'ai pas dit, moi je suis opticienne, voilà, de base. Donc ouais, je comprenais pas trop, voilà, ce côté syndrome d'imposteur, ça veut dire quoi, enfin, mais si, je l'ai quand même. Mais ouais, la persévérance, ça c'est un truc que j'ai en moi.
Et est-ce que tu as eu, parce que justement, tout le monde en effet ne lance pas une app hein, quand même, mais est-ce que, je sais pas, ton entourage proche ou plus ou moins proche ont vu tout ton projet en disant, enfin bon voilà, c'est son petit hobby, enfin tu vois, un peu un regard négatif dans le sens où bon, t'es la femme d'eux, t'es la conjointe suiveur. Et bon, voilà, elle va faire son petit truc et ça va lui passer. Ou pas du tout. Ou au final, tout le monde a été hyper supportive.
Donc, c'est une impression, mais oui, je pense qu'il y en a qui pensent, oui, bah, Alice a fait son truc et c'est très bien comme projet. Mais bon, c'est parce que, voilà, son mari, il aime très bien sa vie, du coup, elle peut faire son petit projet de son côté et tout. Et même encore quand je croise des gens, ah, toi, tu fais quoi dans la vie? Je leur dis, j'en comprends. J'ai créé une application. Ah ok, d'accord, mais est-ce que tu l'as créé vraiment? Bah non, j'ai une développeuse avec moi. Ah ok, mais tu fais quoi du coup?
J'ai tout le concept en tête.
Peut-être viens bosser avec moi, tu verras que je ne m'ennuie pas.
On va finir, Alice, avec la fameuse question de l'interview finale. Est-ce que tu aurais trois mots pour décrire The Musette?
Eh ben, regarde, comme on est toutes les deux, je partirai sur le mot sororité. Toute la bienveillance que tu portes sur ton projet, tout ce que tu fais, franchement, ton compte LinkedIn est trop bien, je l'adore.
Merci,
c'est gentil. Bah, inspirant, parce que tous les témoignages et tous les entrepreneurs voilà, qui entourent The Musette, bah, ça inspire et puis ça fait réfléchir et c'est « Ah ouais, ok, pourquoi pas ça ?»
Merci Alice, merci d'avoir été transparente, de nous avoir parlé librement bah voilà, de la grossesse qui n'est pas forcément pour tout le monde quelque chose d'évident, mais de voir aussi que ça peut être un point positif quelque part, puisque tu as réussi à lancer ton projet grâce à ça. Donc top, je te félicite, je trouve ça très très malin, très chouette comme idée. Donc longue vie à Milky Date et on revient dans un an, tu seras encore là.
Exactement.
À bientôt Alice, ciao.
Salut.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneurs.